Oui, effectivement, un homme du nom présumé de Bartleby, qui n'a pu produire aucune pièce d'identité, a bien été écroué ici sous la double inculpation de vagabondage et troubles sur la voie publique.
Je l'ai eu à mon service lorsque j'avais une étude et je m'étais séparé de lui pendant quelques temps. Et c'est un homme tout à fait digne de foi.
Ça peut pas faire de mal.
Effectivement, il est capable d'excentricité, mais il est aussi digne de confiance, enfin. Est-ce que je pourrais le voir?
C'est pas très réglementaire. Mais, puisqu'aucune charge infamante ne pèse sur votre ami, et étant donné vos fonctions, vous pourrez lui parler.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Tenez, il est dans la cour. On le voit d'ici.
Bartleby n'est pas une métaphore de l'écrivain, ni le symbole de quoi que ce soit. C'est un texte violemment comique, et le comique est toujours littéral. C'est comme une nouvelle de Kleist, de Dostoïevski, de Kafka ou de Beckett, avec lesquels il forme une lignée souterraine et prestigieuse. Il ne veut dire que ce qu'il dit littéralement. Et ce qu'il dit et répète, c'est « I would prefer not to ». Je préférerais ne pas. C'est la formule de sa gloire, et chaque lecteur amoureux la répète à son tour. Un homme maigre et livide a prononcé la formule qui affole tout le monde. La formule bourgeonne et prolifère. À chaque occurrence, c'est la stupeur autour de Bartleby, comme si l'on avait entendu l'indicible ou l'imparable. Et c'est le silence de Bartleby, comme s'il avait tout dit et épuisé du coup le langage. À chaque occurrence, on a l'impression que la folie croît, non pas particulièrement celle de Bartleby, mais autour de lui. Il n'y a pas de doute, la formule est ravageuse, dévastatrice, et ne laisse rien subsister derrière elle. Bref, je préférerais rien plutôt que quelque chose, non pas une volonté de néant, mais la croissance d'un néant de volonté. Bartleby est l'homme sans référence, sans possession, sans qualité, sans particularité. Il est trop lisse pour qu'on puisse lui accrocher une particularité quelconque. Sans passé ni futur, il est instantané. « I prefer not to » est la formule chimique ou alchimique de Bartleby. Cet étrange personnage, prophète ou fou, est le héros d'une nouvelle du grand romancier américain Herman Melville, Bartleby le Scribe, publié en 1853. Rédigé peu après Moby Dick, son grand récit d'aventure, ce court texte interroge les limites du langage, comme si l'écrivain était lui-même parvenu aux limites de l'écriture. Cette exploration de la littérature comme tentative d'épuisement du langage est l'analyse qu'en propose un lecteur passionné de Bartleby, le philosophe français Gilles Deleuze, dont je vous ai lu un extrait en ouverture de cette émission. Bartleby. Employé en qualité de copiste dans un cabinet juridique, il en vient peu à peu à ne prononcer qu'une seule phrase énigmatique « I would prefer not to »« Je préférerais ne pas » ou « J'aimerais mieux pas ». Au-delà de l'absurdité des tâches administratives, son attitude critique le processus d'aliénation par le travail propre aux sociétés industrielles. À travers cette petite phrase, en apparence inoffensive, c'est toute la logique productiviste du XIXe siècle qui vacille dans ses fondements rationnels. Ce soir, partons à la rencontre de Bartleby, employé modèle, devenu, pour de nombreux admirateurs, le symbole de la résistance passive. Plus qu'une satire de la vie de bureau, c'est une véritable fable sur la condition humaine que nous donne à lire Melville. Et je dédie cette émission à Daniel Pennac. Ouvrons la première page où apparaît la personnalité du narrateur, un self-made man à l'américaine. Nous sommes au cœur du quartier de Wall Street, dans le New York des années 1850. À l'époque précédant la venue de Bartleby, j'employais deux personnes comme copistes et un jeune homme très prometteur comme garçon de bureau. Le premier, dindono, le deuxième, pincette, le troisième, gingembre. C'était des sobriquets que mes clercs s'étaient mutuellement attribués. Dindonneau était un Anglais bedonnant et trapu, de mon âge environ, autrement dit non loin de la soixantaine. Le matin, son visage était comme qui dirait d'un beau coloris vermeil, mais après les 12 coups de midi, heure de son déjeuner, il flamboyait tel un âtre de Noël. Et il continuait à flamboyer, avec un éclat allant décroissant, jusqu'à 6 heures du soir environ. Après quoi, ce visage semblait se coucher au même moment que le soleil, pour se lever, culminer et décliner le lendemain avec une régularité et une splendeur égales. Non qu'il fût absolument oisif ou rétif à la tâche, loin de là. Le problème est que Dindonneau faisait montre d'une excessive énergie. Il se laissait aller, dans son activité, à une témérité étrange, forcenée, convulsive et cervelé. Il ne prenait aucune précaution pour tremper sa plume dans l'encrier, et c'est après les 12 coups de midi qu'il laissait choir tous les pâtés sur mes documents. En vérité, l'après-midi, il lui arrivait certains jours de se montrer bruyant. À ces moments-là, son visage s'embrasait d'une ardeur accrue. Il faisait un odieux vacarme sur sa chaise, il renversait sa boîte à poudre, réparant avec impatience ses plumes, il les mettait en pièces et les jetait au sol avec un soudain accès de rage. Il se levait, se penchait sur sa table et se mettait à frapper du poing les papiers avec une inconvenance de manière fort triste à contempler chez un homme de cet âge. Néanmoins, comme il mettait à mains égards très précieux et que durant toutes les heures antéméridiennes, il se montrait le plus rapide et le plus diligent des clercs, abattant la besogne avec un style difficile à égaler, j'étais disposé à fermer les yeux sur ses excentricités. Pincette, le deuxième de ma liste, était un jeune homme d'environ 25 ans, blême, moustachu, à l'allure de pirate. Je l'ai toujours tenu pour victime de deux puissances malignes, l'ambition et l'indigestion. L'ambition était manifeste dans l'impatience qu'il montrait envers les devoirs d'un simple copiste, par exemple la rédaction originale d'actes juridiques. Ses crises gastriques, elles, donnaient lieu à une sporadique irritabilité des nerfs et à une susceptibilité ricaneuse qui engendrait tour à tour des grincements de dents à la moindre faute de copie, une bordée de malédictions sifflantes lâchées dans l'ardeur du travail et surtout un perpétuel mécontentement quant à la hauteur de la table de travail. Malgré son ingéniosité dans la mécanique, Pincette n'arrivait jamais à placer la table à son gré. Lorsque, dans le but de soulager son échine, il amenait le plan de la table à angle aigu de son menton et se mettait à écrire comme un homme qui prendrait pour pupitre le toit abrupt d'une maison hollandaise, il déclarait que cette position entravait la circulation de son bras. Quand en revanche il abaissait le plan de travail jusqu'à sa taille et se penchait outrageusement pour pouvoir écrire, il prétendait avoir le dos tout endolori. La vérité est que Pincette ne savait pas ce qu'il voulait. Ou s'il voulait quelque chose, c'était se voir débarrassé d'une table de copiste. Combien de fois vis-je Pincette, dans le calme de mon étude, se lever impatiemment de son siège, se pencher au-dessus de la table, étendre le bras, saisir le pupitre à bras-le-corps, le déplacer et le secouer, le faire sinistrement grincer sur le sol comme si la table était un agent doué de volonté et de perversité, animé du seul désir de le contrarier et de le vexer. Heureusement pour moi, les crises gastriques étant à l'origine de ses travers, Pincette était irritable et nerveux durant la matinée, mais relativement calme l'après-midi. De la sorte, les crises de Dindonneau survenant vers midi, je n'avais pas à affronter leur excentricité au même moment. Leur accès se relayait l'un l'autre comme des sentinelles. Quand Pincette était de garde, Dindonneau était au repos et inversement. En l'occurrence, la nature fait bien les choses.
Voici mon bureau. Et puis, voici le vôtre. Ben, si vous le voulez bien, vous pouvez commencer tout de suite.
Découvrons enfin notre héros. Gingembre, le troisième employé, est un modeste garçon de course d'une douzaine d'années, qui doit son surnom au biscuit qu'il est chargé de rapporter au bureau. Promu à une nouvelle charge au tribunal de New York, le narrateur décide de s'entourer d'une nouvelle recrue. En réponse à mon offre d'emploi, je vis un matin un jeune homme immobile, sur le seuil de mon étude. La porte était ouverte car nous étions en été. Je revois encore cette silhouette, lividement nette, pitoyablement respectable, incurablement solitaire. C'était Barthelby. Après m'être enquis en quelques mots de ses qualifications, je l'engageais. Heureux d'avoir dans mon corps de copiste un homme d'un maintien si posé qu'il ne manquerait pas, pensais-je, d'exercer une heureuse influence sur l'étourderie de Dindono et la fougue de Pincette. Au début, Barthelby fit un nombre extraordinaire d'écritures. Tel un homme longtemps affamé de copies, il semblait se repaître de mes documents. Il ne prenait pas le temps de digérer, travaillait jour et nuit, copiant à la lumière du soleil et à celle des bougies. J'aurais été tout bonnement ravi de son application s'il avait montré quelque gaieté dans son labeur. Mais il écrivait d'une manière silencieuse, éteinte, mécanique. Il arrive tout naturellement dans les attributions d'un copiste de vérifier mot à mot l'exactitude de sa copie. C'est une besogne très monotone, fastidieuse et léthargique. J'imagine aisément que pour des tempéraments sanguins, elle soit parfaitement intolérable. Il m'est difficile, par exemple, d'imaginer que l'ardent poète Byron se fût assis d'un cœur content aux côtés de Barthelby pour collationner, comme on dit dans notre jargon, un acte de 500 pages couvert de pattes de mouche. De temps à autre, dans l'ardeur du travail, j'avais pris l'habitude d'aider moi-même à la révision de quelques brefs documents, en appelant Dindono ou Pincette à la rescousse. En plaçant Barthelby près de mon bureau, derrière un paravent, j'avais dans l'esprit de recourir à ses services en de menues occasions de cette sorte. Ce fut le troisième jour, je crois, après son arrivée dans mon étude, alors que ses écritures n'avaient encore fait l'objet d'aucune collation, que, dans ma hâte d'expédier une petite affaire en cours, j'appelais soudainement Barthelby. Pressé et naturellement assuré d'une immédiate obéissance, je restais assis, la tête penchée sur l'original, tenant à bout de bras la copie afin que Barthelby, émergeant de son coin, pût s'en saisir et se mettre au travail sans délai. J'étais donc assis dans cette posture, lorsque je l'appelais et lui exposais rapidement ce que j'attendais de lui, nommément de relire, collationner avec moi un bref papier. Imaginez ma surprise, que dis-je, ma consternation, lorsque, sans bouger de sa retraite, Barthelby répliqua d'une voix singulièrement douce et ferme « J'aimerais mieux pas ». Pendant quelques instants, je gardais un silence absolu, essayant de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint immédiatement que mes oreilles m'avaient abusé ou que Barthelby s'était complètement mépris sur le sens de ma requête. Je la réitérais donc d'un ton de voix aussi clair que possible, mais tout aussi clairement me parvint la même réponse. « J'aimerais mieux pas. »« Vous n'aimeriez mieux pas ?» répétais-je en écho et en proie à une vive agitation. Je me levais et traversais la pièce d'une seule enjambée. « Que voulez-vous dire ? Auriez-vous l'esprit dérangé ? Je veux que vous m'aidiez à collationner ce feuillet. Tenez !» Et je le lui tendis. « J'aimerais mieux pas, » dit-il. Je le regardais fixement. Son visage maigre était tranquille. Ses yeux gris calmes et éteints. Aucune ombre d'agitation ne troublait sa surface. Si j'avais décelé dans ses manières la moindre trace de malaise, colère, impatience ou impertinence, en d'autres mots, si quelque émotion banalement humaine s'était manifestée, je l'aurais sans aucun doute chassé de mes bureaux sans ménagement. Mais en l'occurrence, autant jeter à la porte mon buste de Cicéron en plâtre de Paris, je restais à le contempler, perdu dans mes écritures. Voilà qui est pour le moins curieux, pensais-je. Quel parti prendre ? Avec tout autre que lui, je serais aussitôt entré dans une rage folle. Mais il y avait en Barthelby quelque chose qui me désarmait étrangement. Bien plus, qui miraculeusement me touchait et me déconcertait. Les affaires pressaient, je décidai de clore momentanément l'incident, quitte à y revenir tout à loisir. Je fis donc venir Pincette de l'autre pièce et le papier fut relu sans lanterner.
Mathieu Lindon.
Je préférerais ne pas. Cette formule, elle perturbe le narrateur, elle va perturber le lecteur aussi, puisque c'est toute l'intrigue du livre. Et quand le narrateur dit « Mais pourquoi refusez-vous ?», on voit bien qu'un glissement s'est fait, puisque dans la réalité, Barthelby ne refuse pas, il préférerait pas, juste.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Three little maids from school are we, but as a schoolgirl well can be, filled to the brim with girlish glee. Three little maids from school, everything is a source of fun. Nobody's safe or we care for none. Life is a joke that's just begun. Three little maids from school.
from school. Three little maids from school.
Ce refus entêté provoque bientôt des tensions parmi les employés. Peu après ce premier incident, le narrateur découvre que Barthelby ne prend jamais de pause déjeuner et se nourrit exclusivement de biscuits au gingembre. Il se prend de pitié pour cet être chétif qui se voue corps et âme à son travail. Mais la patience a ses limites. À travers les atermoiements du narrateur, Melville critique le comportement paternaliste de certains patrons, tandis qu'il fait de Barthelby, ce jeune homme solitaire et sans origine, le symbole de la nouvelle société américaine qu'on dit sans père. Rien n'exaspère autant une personne sérieuse que la résistance passive. Quand l'individu soumis à cette résistance n'est pas dépourvu d'humanité, et quand le résistant est parfaitement inoffensif dans sa passivité, alors, dans ses meilleurs moments, le premier fera de charitables efforts pour comprendre le second. C'est de cette façon que la plupart du temps je considérais Barthelby et ses extravagances. Pauvre diable, me disais-je, il ne pense pas à mal. Il est clair qu'il n'a pas l'intention d'être insolent. Son apparence prouve amplement que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile. Je puis m'entendre avec lui. Si je le renvoie, il a de fortes chances de tomber sur un patron moins indulgent que moi. Il sera mené à la dure et peut-être en viendra-t-il à mourir d'inanition. Oui. Voici l'occasion de satisfaire à peu de frais ma bonne conscience. Cependant, je n'étais pas toujours de cette humeur débonnaire. Parfois, la passivité de Barthelby m'irritait. Je me sentais singulièrement éperonné à provoquer son opposition, à faire jaillir en lui quelque étincelle de colère qui réponde à la mienne. Mais autant chercher à allumer un feu en me frottant les jointures avec du savon de Marseille. Un après-midi, toutefois, l'impulsion maligne eut raison de moi et provoqua la petite scène suivante. Barthelby, dis-je, quand vous aurez fini de copier ces pièces, je collationnerai avec vous. J'aimerais mieux pas. Comment ? Vous n'avez pas l'intention de persister dans cet entêtement de mule ? J'ouvris à deux battants la porte de séparation de mon bureau, que je partageais avec Barthelby, et m'exclamai à l'adresse de Dindonneau et Pincette. Pour la seconde fois, Barthelby dit qu'il ne veut pas revoir ses minutes. Qu'en pensez-vous, Dindonneau ? Dindonneau flamboyait comme un chaudron de cuivre. Son crâne chauve fumait. Ses mains dansaient branle dans les papiers maculés d'encre. « Ce que j'en pense, rugit Dindonneau, je pense que je vais lui faire un œil au beurre noir !» Ce disant, Dindonneau bondit sur ses pieds et se mit en position de pugiliste. Il s'apprêtait à passer à l'attaque quand je le retins, alarmé par l'effet que j'avais produit. « Que pensez-vous de cette façon de faire, Pincette ? Ne serais-je pas en droit de licencier Barthelby sur le champ ?»«
Excusez-moi, monsieur, mais c'est à vous d'en décider. Je trouve sa conduite tout à fait inhabituelle et en vérité injuste envers Dindonneau et moi-même. Mais ce n'est peut-être qu'un caprice passager. »
« Ah !» m'exclamai-je, « vous lui montrez beaucoup d'indulgence. »« Voyez comme je suis indulgent, moi !» s'écria Dindonneau. « Je vais lui faire un œil au beurre noir !»«
Non, pas aujourd'hui, Dindonneau, » répliquai-je. « Desserrez les poings. »
Je fermai les portes. Titubant, je regagnai mon bureau et me plongeai dans une profonde méditation. Mon aveugle impulsion me reprit. Comment pouvais-je encore une fois m'attirer les ignominieuses rebuffades de ce misérable air efflanqué ? Mon employé à gage, quelle requête parfaitement raisonnable refuserait-il encore de satisfaire ? Barthelby ? Pas de réponse. Barthelby ! Dis-je en élevant le ton. Barthelby ! Vociférai-je. Tel un fantôme obéissant aux lois de l'invocation magique, à la troisième sommation, il apparut à l'entrée de son ermitage. « Barthelby, dis-je, gingembre est sorti. Voulez-vous faire un saut jusqu'à la poste ?» C'était à 3 minutes de marche. « Et voir s'il n'y a rien pour moi. »«
J'aimerais mieux pas, » répondit-il respectueusement, sans se hâter, avant de disparaître en douceur.
« Très bien, Barthelby, » dis-je d'une voix contenue, sereinement sévère, laissant percer l'irrévocable dessein d'en venir à un terrible châtiment.
car sur le moment, telle était à demi mon intention. Mais à tout prendre, comme l'heure du déjeuner approchait, je jugeais plus opportun de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi à pied, plongé dans la perplexité et le désarroi le plus profond. Notre narrateur n'est plus au bout de ses surprises. Un dimanche matin, au détour d'une promenade, le juriste se rend à son étude et découvre que Barthelby s'est installé dans ses bureaux. D'abord furieux, l'homme de loi cède ensuite à un sentiment de compassion plein de lyrisme. Un dimanche matin, j'allais par hasard entendre un célèbre prédicateur de la Trinité et, me trouvant par avance sur les lieux, je décidai de faire un tour jusqu'à mon bureau. Par bonheur, j'avais la clé sur moi, mais en voulant la glisser dans la serrure, je rencontrai une résistance. Fort surpris, j'appelai alors, à ma consternation. On tourna une clé à l'intérieur et à travers la porte entrebâillée, le visage de Barthelby m'apparut. L'homme était en bras de chemise et accoutré d'une robe de chambre étrangement en loque. Sans se départir de son calme, il me dit qu'il était désolé, mais qu'il était fort occupé pour le moment et qu'il aimait mieux ne pas me laisser entrer. Il ajouta deux mots pour me conseiller de faire le tour du pâté de maison deux ou trois fois, de façon à lui laisser le temps de terminer ses affaires. Or, l'apparition totalement inattendue de Barthelby, hantant mes bureaux un dimanche matin avec sa nonchalance cadavéreuse et distinguée, eut sur moi un effet si curieux que je m'éloignai furtivement et obéis à ses désirs. Non sans quelques élancements de révolte impuissante contre la douce effronterie de cet incompréhensible scribe. C'était en effet cette douceur magique qui non seulement me désarmait, mais faisait de moi une chiffe molle. Car je considère comme une vraie chiffe quiconque permet à un employé à gage de lui dicter ses volontés et de lui ordonner de quitter son propre lieu d'habitation. Néanmoins, mon esprit ne trouvait point de repos et plein d'une curiosité inquiète, je revins finalement à ma porte. Sans résistance aucune, j'introduisis ma clé, ouvris et entrai. Point de Barthelby. Après examen attentif des lieux, j'en vins à conclure que, dans un certain laps de temps, Barthelby mangeait, s'habillait, dormait dans mon bureau, et ce, sans assiette, sans miroir, sans lit. Une pensée me traversa sur le champ l'esprit. Quelle solitude! Quel abandon misérable il étale ici! Certes, grande est sa pauvreté, mais combien plus horrible sa solitude! Et c'est ici que Barthelby habite! Nouveau et innocent Marius, broyant du noir sur les ruines de Carthage. Pour la première fois de ma vie, une accablante et poignante mélancolie s'empara de moi. Le lien de notre communauté humaine me jeta dans une irrésistible consternation, fraternelle mélancolie. Car Barthelmy et moi étions tous deux fils d'Adam. Ah, le bonheur courtise la lumière et nous pensons que le monde est gai, mais le malheur se tient à distance et nous concluons qu'il n'existe pas. Alors me revinrent en mémoire tous les tranquilles mystères que j'avais observés chez cet homme, que durant de longues périodes il restait debout à regarder par la pâle fenêtre le mur de briques aveugle, qu'à ma connaissance il n'avait jamais fréquenté la moindre gargote ni cantine, qu'il ne buvait jamais de bière comme d'un dodo, ni de thé ou de café comme le commun des mortels, qu'il avait refusé de me dire qui il était, d'où il venait, s'il avait des parents en ce monde. Soudain, le pressentiment que j'allais faire d'étranges découvertes m'envahit. La forme pâle du scribe m'apparut, gisant dans un froid linceul, au milieu d'étrangers impassibles. Mais l'empathie fait soudain place à un sentiment de méfiance. Peu à peu, Barthelby apparaît au narrateur comme un personnage christique, solitaire et détenteur d'une vérité mystérieuse. Comme tous les marginaux, il fait figure de prophète ou de fou. Une inquiétude saisit alors notre homme de loi. Et si Barthelby souffrait d'une maladie mentale? Et si sa folie langagière devenait contagieuse? Depuis quelque temps, j'avais pris involontairement l'habitude d'utiliser l'expression « aimer mieux » en toutes sortes de circonstances qui ne s'y prêtaient guère. Et je tremblais en pensant que mon commerce avec le scribe avait déjà assez sérieusement affecté mon moral. Un matin, Dindono s'approcha avec affabilité et déférence de mon bureau, jouxtant celui de Barthelby.
« Sauf votre respect, monsieur, dit-il, hier je pensais à Barthelby, ici présent, et je me disais que si seulement il aimait mieux boire chaque jour une bonne pinte de bière, cela l'aiderait beaucoup à collationner ses copies. » Ainsi, vous avez attrapé l'expression, vous aussi, dis-je en proie à une légère excitation.
Quelle expression, monsieur ?
J'aimerais mieux qu'on me laisse seul ici, dit Barthelby, comme offensé de voir son intimité assiégée. Ben, la voilà, l'expression d'Indono. La voilà, dis-je. Maintenant, veuillez vous retirer, je vous prie.
Oh, certainement, monsieur, si vous aimez mieux que je m'en aille.
Comme il ouvrait le battant pour sortir, Pincette m'apparut de son bureau et me demanda si j'aimais mieux qu'il exécutât la copie d'un certain acte sur du papier blanc ou bleu. Il ne mit aucun accent malicieux sur l'expression. Il était évident qu'elle lui avait échappé.
Je pensais à part moi qu'il était temps de me débarrasser d'un démon qui nous avait tourné les langues, sinon les têtes, à mes clercs et moi.
Pourquoi, diable, est-ce que je garde cet homme à mon service ? Or, dans ce pourquoi, il y a toute la personnalité du notaire. Sa position est extraordinairement complexe.
Daniel Pénac.
Cet homme qui est, par profession, destiné à tout comprendre. Il a autour de lui tous les morts, des générations de morts dans ses casiers, et les vivants qui viennent demander des comptes et qui arrivent avec leur petite histoire de famille. Cet homme a tout entendu, tout su, tout compris. Et tout d'un coup, arrive un type qui refuse toute espèce d'explication. I would prefer not to. Et ce notaire va perdre la raison, pratiquement, à essayer de comprendre.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.
Bientôt, Barthelby franchit un pas supplémentaire dans la provocation silencieuse. Retrouvons notre juriste en plein désarroi face à un jeune homme qui s'obstine dans le refus. Dans le passage suivant, Melville fait de son héros l'incarnation du renoncement. Renoncement au travail et renoncement à la société des hommes. De plus en plus, son personnage s'isole dans la contemplation extatique d'un mur de briques grisâtres sur lequel donne la fenêtre aveugle du bureau. Pour l'écrivain, cette attitude d'humilité évoque le regard d'un saint sur la petitesse de la condition humaine. Le lendemain, je remarquai que Barthelby restait sans rien faire, perdu devant la fenêtre, dans sa rêverie de mur aveugle. Prié de me dire pourquoi il n'écrivait pas, il m'informa qu'il avait décidé de ne plus faire d'écriture. Pourquoi ? Que dites-vous ? Et quoi encore ? M'exclamai-je, plus d'écriture hein ? Non. Et pour quelle raison ? Ne pouvez-vous la voir par vous-même ? Répliqua-t-il avec indifférence. Je le regardai attentivement et m'aperçus que ses yeux semblaient ternes et vitreux. Il me vint instantanément à l'esprit que son inégalable diligence de copiste, aux abords d'une fenêtre sombre pendant des semaines d'affilée, pouvait avoir temporairement altéré sa vue. J'en fus touché. J'exprimais ma compassion. Je suggérais que, naturellement, il avait raison de s'abstenir de toute écriture pendant quelque temps. Je le pressais de saisir cette occasion pour prendre un peu d'exercice en plein air. Il n'en fit rien, bien entendu. Des jours s'écoulèrent. Je n'aurais su dire si la vue de Barthelby se rétablissait. Selon toute apparence, je pouvais le croire, mais quand je lui demandais ce qu'il en était, il ne daigna pas répondre. « Comment, m'exclamai-je, à supposer que vos yeux aillent tout à fait bien, vous ne feriez pas de copie ?»« J'ai renoncé à la copie, » répondit-il en s'esquivant. Et il demeura, comme auparavant, un meuble inamovible dans mon bureau. Quel parti prendre ? Il ne voulait rien faire au bureau. Pourquoi devait-il rester ? À franchement parler, il était aussi lourd qu'une meule autour du cou. Cependant, j'avais de la peine pour lui. Il semblait seul, absolument seul dans l'univers. Une épave au milieu de l'Atlantique. À la longue, les nécessités tyranniques de mes affaires l'emportèrent sur toute autre considération. Aussi délicatement que je le pus, j'annonçai à Barthelby qu'il lui faudrait quitter le bureau dans les 6 jours. Je l'avertis de prendre des mesures pour se trouver quelque refuge. Je m'offris à l'assister dans cette tâche, s'il voulait bien entreprendre les premières démarches en vue d'un déménagement. À l'expiration du délai, je jetai un coup d'œil derrière le paravent et que vis-je ? Barthelby. Je boutonnais ma redingote, me redressais, m'avançais lentement vers lui et lui touchais l'épaule. « Le moment est venu. Vous devez quitter cet endroit. Je suis désolé pour vous. Voici votre argent. Mais vous devez partir. »« J'aimerais mieux pas, » répliqua-t-il en continuant à me tourner le dos, le regard fixé sur le mur aveugle. « Il faut partir. » Il resta silencieux. « Barthelby, » dis-je, « je vous dois 12 $, en voici 32. Voulez-vous les prendre ?» Et je lui tendis les billets. Il ne fit pas un geste. « Je vais donc les laisser là, » annonçai-je en plaçant l'argent sous un presse-papier. Puis, prenant ma canne et mon chapeau, je me dirigeai vers la porte et me retournai calmement pour ajouter « Après avoir retiré vos affaires du bureau, Barthelby, vous fermerez la porte à clé, naturellement, et vous glisserez la clé sous le paillasson, je vous prie. Je ne vous reverrai plus. Adieu donc. Adieu, Barthelby. Et portez-vous bien. » Il ne répondit pas un mot. Je le laissai debout, muet et solitaire, au milieu de la pièce déserte, telle l'ultime colonne d'un temple en ruine.
Philippe Jaworski.
J'ai envie de dire que, comme parabole moderne, voire très contemporaine, Barthelby, c'est comment faire place à celui pour lequel on n'a aucune place. Et c'est, me semble-t-il, une question très actuelle et très très contemporaine. Connaissons tous des gens, des communautés, des situations qui sont absolument insupportables, absolument inacceptables, qui semblent n'avoir aucun sens, et pourtant, on ne peut pas ne pas les prendre en compte, simplement, on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas comment les prendre, on ne sait pas comment les saisir.
Le lendemain, Barthelby n'a pas quitté son éternel poste d'observation. Face à ce mystère insondable, notre narrateur en vient à accepter le sort de Barthelby comme une mission divine. Mais dans son entourage, le juriste commence à s'attirer une mauvaise réputation. Entre Barthelby et lui, le rapport de dépendance semble s'inverser. Et le plus fou des deux n'est pas celui qu'on croit. La folie guette sous la forme d'un délire paranoïaque. J'en vins progressivement à la conviction que mes contrariétés avec le scribe étaient prédestinées de toute éternité et que Barthelby m'était envoyé par la Providence pour quelque mystérieuse raison qu'il ne m'appartient pas à moi, simple mortel, de sonder. Oui, Barthelby, reste là, derrière ton paravent, pensais-je. Je ne te persécuterai plus, tu es aussi inoffensif et silencieux que ces vieilles chaises. Bref, je ne me sens jamais aussi à mon aise que lorsque je te sais présent. Enfin, je le vois, je le sens, je pénètre le but prédestiné de ma vie. Je suis satisfait. D'autres peuvent avoir des rôles plus nobles à jouer. Ma mission en ce monde, Barthelby, est de te nantir d'un bureau pour le temps que tu jugeras bon de rester. Finalement, je me rendis compte que dans le cercle de mes relations d'affaires courait un murmure d'étonnement au sujet de l'étrange créature que j'abritais dans mes bureaux. Cela me rendit soucieux. L'idée me vint que Barthelby pourrait continuer à occuper mes bureaux, saper mon autorité, confondre mes visiteurs, ruiner ma réputation d'homme de loi, jeter une ombre générale sur les lieux, et à la fin des fins, me survivre peut-être, et réclamer possession de mon bureau par droit d'occupation perpétuelle. Ces sombres prévisions se bousculant dans mon esprit, et mes amis se livrant sans répit à des remarques sur l'étrange apparition qui hantait ma pièce, un grand changement s'opéra en moi. Je résolus de battre le rappel de mes facultés pour me délivrer à tout jamais de cet intolérable incube. Je me contentai d'abord de suggérer à Barthelby l'opportunité de son départ définitif. Mais après avoir pris 3 jours pour méditer la question, il m'apprit que sa détermination première restait la même, bref, qu'il aimait mieux rester chez moi. Restons en compagnie du narrateur en proie à une véritable crise de conscience. Au-delà de l'absurdité de la situation, Barthelby soulève des questions d'ordre moral. Comment accueillir l'étranger ? De quel côté se situe la normalité ? À travers son personnage non conformiste, Melville dénonce l'hypocrisie d'une société qui rejette toute forme d'altérité. Voici quelle solution radicale et plutôt insensée se présente bientôt à notre juriste. La situation s'envenime et devient de plus en plus folle. Que puis-je faire ? Me demandai-je en boutonnant ma redingote de haut en bas. Que vais-je faire ? Que dois-je faire ? Que ma conscience me dicte-t-elle de faire avec cet homme, ou plutôt ce fantôme ? Tu ne vas tout de même pas jeter ce pauvre mortel, hâve et passif ? Tu ne vas pas jeter une créature aussi démunie à la porte ? Tu ne vas pas te déshonorer par une telle cruauté ? Non, je ne veux pas, je ne peux pas faire cela. Comment ? Tu ne vas tout de même pas le faire prendre au collet par un gardien de paix et condamner son innocente pâleur à la prison ? Et de quel motif te prévaudrais-tu pour commettre une telle action ? Est-ce un vagabond ? Lui, un vagabond, un cheminot, alors qu'il refuse de bouger. C'est parce qu'il ne veut pas devenir vagabond que tu essaies de le faire passer pour tel. Oh, c'est trop absurde. Assez donc. Puisqu'il ne veut pas me quitter, c'est à moi de le faire. Je vais changer de bureau. Je vais déménager. Et je le préviendrai honnêtement que si je le trouve dans mes nouveaux locaux, je le poursuivrai en justice comme n'importe quel quidam coupable de violation de domicile. Au jour prévu, je louai des charrettes et des hommes, pris la direction de mes bureaux, et mon mobilier se réduisant à peu de choses, tout fut déménagé en quelques heures. Pendant le déménagement, le scribe resta debout derrière son paravent, que j'ordonnai de retirer en dernier. On l'enleva, enfin, on le plia comme un énorme folio, et Barthelby resta le seul et immobile occupant d'une pièce nue. Debout dans l'entrée, je le considérai pendant un moment, et je sentis le remords s'emparer de moi. Et alors, étrange retournement des choses, je dus m'arracher à celui dont j'avais tant voulu me débarrasser. Une fois installé dans mes nouveaux quartiers, je gardai la porte fermée à clé pendant un jour ou deux, sursautant à chaque bruit de pas dans les couloirs. Lorsque je regagnai mes bureaux après une courte absence, je m'arrêtai un instant sur le seuil et prêtai l'oreille avant d'introduire ma clé dans la serrure. Mais toutes mes craintes se révélèrent sans fondement. Barthelby ne vint jamais dans les parages. Je pensais que l'affaire était close lorsque je reçus la visite d'un étranger qui, l'air troublé, me demanda si j'étais bien la personne qui avait occupé récemment les locaux de Wall Street. Envahi par de sombres pressentiments, je répondis que c'était bien moi. « Alors, monsieur, dit l'étranger qui se trouvait être lui-même un homme de loi, vous êtes responsable de l'homme que vous avez laissé là-bas. » Il refuse de faire des écritures, il refuse de faire tout ce qu'on lui demande, il dit qu'il aime mieux pas, et il refuse de quitter les lieux. « Je suis désolé, monsieur, dis-je avec une fin de tranquillité, mais en tremblant intérieurement. Je vous assure que l'homme auquel vous faites allusion ne m'est rien, et vous ne sauriez me tenir pour responsable de lui. Je vais lui donner son reste, alors. Au revoir, monsieur. » Cette fois, c'en est fait de Barthelby, pensais-je, lorsqu'une nouvelle semaine se fut écoulée sans autre nouvelle de lui. Mais en arrivant au bureau le lendemain, je trouvai plusieurs personnes qui m'attendaient devant la porte, dans un grand état d'énervement. « C'est lui, le voici qui arrive !» s'écria le chef du groupe en qui je reconnus l'homme de loi venu précédemment me rendre visite. « Il faut que vous l'emmeniez sur le champ, monsieur !» s'écria en avançant vers moi une personne corpulente en qui je reconnus le propriétaire de mes anciens locaux. Ces messieurs, mes locataires, ne peuvent plus supporter la situation plus longtemps. Monsieur l'avocat, dit-il en désignant l'homme en question, l'a chassé de son bureau, mais il continue à hanter tout l'immeuble, à s'asseoir sur la rampe d'escalier dans la journée et à dormir dans l'entrée durant la nuit. Tout le monde est inquiet. Les clients désertent les bureaux. On craint les réactions de la populace. Il faut que vous fassiez quelque chose sans perdre de temps. » Abasourdi par ce torrent, je reculais devant son impétuosité. J'aurais donné n'importe quoi pour me retrancher dans mes nouveaux quartiers, mais dans la crainte de voir mon nom étalé dans les journaux, ainsi que l'un des assistants m'en menaça à mots couverts, je considérais la question et finalement annonçais que si l'on voulait bien me ménager un entretien confidentiel avec le scribe, je m'efforcerais, l'après-midi même, de les libérer du fléau dont ils se plaignaient.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Les animaux que nous sommes restent faibles et éphémères. En nous, cette idée résonne qu'il est honte d'être humain. Toutes les étoiles se moquent de nous. Plus elles brillent, plus on a mal. On cherche les yeux fermés, les arbres de notre enfance. On peut lire sur nos fronts ridés qu'il est honte d'être humain. Nos aïeux qui dorment dans l'autre monde chantent à l'unisson le destin de l'homme. Nos aïeux qui dorment dans l'au-delà chantent sans cesse en cœur cette d'être humain.
Nous approchons du dénouement de l'histoire. Hélas, l'entrevue entre le narrateur et Barthelby se clôt sur cette réplique que vous devinez. J'aimerais mieux pas. À bout d'arguments, le juriste prend la fuite. Pendant quelques jours, il erre en cabriolet à travers la ville, ne sachant plus que faire pour sauver Barthelby d'une persécution certaine. À son retour, un courrier du propriétaire des locaux de Wall Street lui annonce le sort du jeune homme. Il a été arrêté et emprisonné à la prison des tombes. Suivons le narrateur lors de sa seconde visite dans ce lieu qui porte bien son nom. Quelques jours plus tard, j'obtins la permission de revenir aux tombes et je parcourus les couloirs en quête de Barthelby, mais en vain. « Vous cherchez l'homme silencieux ?» me demanda le cuisinier que j'avais rencontré à ma précédente visite. « Il est couché là-bas, il dort dans la cour. Je l'ai vu allongé il n'y a pas 20 minutes. » La cour était parfaitement calme. Elle n'était pas accessible au commun des prisonniers. Ses murs, d'une surprenante épaisseur, ne laissaient filtrer aucun son. Le caractère égyptien de la maçonnerie m'accabla de sa mélancolie, malgré le doux gazon emprisonné qui poussait sous ses pas. On eût dit le cœur des éternelles pyramides, où, par quelque étrange magie, avait germé la graine que les oiseaux avaient laissée choir entre les fentes. C'est un Barthelby décharné qui m'apparut, curieusement recroquevillé au pied du mur, couché sur le flanc, les genoux relevés et la tête reposant sur les pierres froides. Rien ne bougeait. Je marquai une pause, m'approchai de lui, me penchai et vis que ses yeux sans éclat étaient ouverts. À ce détail près, il semblait profondément endormi. Quelque chose m'incita à le toucher. Je tâtai sa main. Un frisson aigu courut le long de mon bras. À mes côtés, la face rebondie du cuisinier me scrutait. « Son déjeuner est prêt ? Il va pas déjeuner aujourd'hui non plus ? Est-ce qu'il vivrait sans manger ?»« Il vit sans manger, » répondis-je, et je fermai les yeux. Quelque temps plus tard, le narrateur conclut son portrait de Barthelby. Il relate enfin une certaine rumeur qu'il évoquait au début de son témoignage. Le texte de Melville ne serait-il qu'un long plaidoyer en faveur de la condition humaine ?
Je ne sais si je dois divulguer ici le bruit qui me parvint aux oreilles quelques mois après le décès du scribe. Néanmoins, cette vague rumeur n'étant pas sans offrir à mes yeux un certain intérêt, il en sera peut-être de même pour autrui. Selon la rumeur, Bartleby aurait été un employé subalterne du bureau des lettres au rebut de Washington, avant d'en être soudainement chassé lors d'un changement administratif. Quand j'y songe, je puis à peine exprimer les émotions qui m'étreignent. Lettres au rebut, cela ne sonne-t-il pas aux oreilles comme « homme au rebut » que l'on imagine un individu enclin par nature et par malchance au désespoir blafard? Quel labeur pourrait davantage le conforter dans son désespoir que celui de manipuler constamment des lettres au rebut et de les trier pour la flamme? Car on en brûle chaque année des charretées. Parfois, du feuillet plié, le blême employé extrait une bague. Le doigt auquel elle était destinée s'effrite peut-être dans la tombe. Un billet de banque expédié au plus vite par charité. Celui qui l'eût soulagé ne mange plus et ne connaît plus la faim. Un pardon pour ceux que le désespoir terrassa, de l'espoir pour ceux qui s'éteignirent sans l'ombre d'une illusion, de bonnes nouvelles pour ceux qui trépassèrent sous le poids de l'infortune, messagères de vie, ces lettres courtes à la mort. Ah, Bartleby. Ah, l'humanité.
Daniel Pénac.
Dans un texte de Pontalis, et Pontalis dit au fond, Bartleby est quelqu'un qui impose doucement son désir de vivre et son refus d'exister.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Jean-Michel Bernot. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser.
C'était une rediffusion de « Ça peut pas faire de mal ». Vous retrouverez les lectures de Guillaume Gallienne tous les soirs après le journal de 23h.